Bonjour Edith Keys.
Bien bonjour.
Directrice générale de l'AQUEPAN. Ça se dit plus rapidement de cette façon-là. Je vous écoutais, je vous voyais plutôt écouter attentivement Sophie. C'est important pour vous, et là c'est vraiment, je pense, une belle plateforme pour être dans un contact direct avec les parents qui forment, qui sont au sein même de votre association.
Oui, c'est vraiment, là, moi, je trouve que c'est un moment privilégié. J'ai pu parler aussi avec Sophie cette semaine pour en apprendre un peu plus parce que, en fait, l'AQUEPA, bien sûr, on est présent, si je peux dire, on est présent dans toutes les régions du Québec.
Oui.
Puis on est vraiment là pour les parents puis pour les enfants. Un peu comme tu disais tout à l'heure, lorsque un parent apprend la surdité de son enfant, mais c'est un choc, hein? Bon, souvent maintenant, à cause du dépistage universel de la surdité, les parents l'apprennent à la naissance, mais des fois, comme dans le cas de Sophie, ça prend un peu plus longtemps. Il n'y a pas toujours, comment dire, des indices forts et majeurs qui laissent poser que l'enfant a une surdité, là, surtout que lui, ce que je comprends, il réagissait beaucoup aussi aux vibrations, là, comme beaucoup d'enfants sourds, là, d'ailleurs. Là.
Oui.
Mais oui, nous autres, on est là pour les parents, puis pour les enfants.
C'est quoi les questions les plus souvent posées ou les obstacles, Edith? Parce que quand on est entendant, qu'on a grandi dans une famille entendante, là, avec des membres qui entendent bien, finalement, et qu'on a un enfant qui est sourd, c'est tout un autre monde très mystérieux. La communication, entrer en contact avec lui, pour des parents, ça peut sembler très problématique.
Et ça l'est, c'est très difficile. Puis d'ailleurs, j'en profite pour parler du guide là, qu'on a produit pour les parents qui viennent d'apprendre la surdité de leur enfant. Là-dedans, il y a énormément d'explications qui sont données là, pour, comment dire, pour apprendre à apprivoiser tout ça. Moi, je dirais que dans un premier temps, l'AQUEPA, c'est important de comprendre que ça a été créé il y a près de 50 ans par des parents d'enfants, d'un enfant avec une surdité. Leur fille, lorsqu'elle est née, ils se sont aperçus qu'il n'y avait aucun service qui existait au Québec. Mais quand même, on parle d'il y a 50 ans. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, ces parents-là se sont battus pour avoir plein de services. Parce qu'eux autres, comme je vous dis, il n'y en avait pas. Pas d'implant cochléaire, pas d'appareil, pas d'aide au niveau scolaire, rien du tout. Alors qu'aujourd'hui, avec l'AQUEPA, au moins les parents, on est un peu un lieu de référence pour eux. Comment ça se passe? Bien, lorsque le parent prend le diagnostic de la surdité de son enfant, c'est sûr, là, un peu catastrophique. Qu'est-ce que je fais? Souvent, il y a une petite période de déni qui s'installe. Mais nous, l'AQUEPA, le premier endroit, finalement, où les parents peuvent vraiment se tourner, parce que entre l'annonce du diagnostic et finalement la prise en charge par un centre de réadaptation, bien là, nous, on est là. Donc, des parents qui sont vraiment passés par là. Et puis, c'est ça, là,
Sur votre site, il y a de multiples ressources, aquepa.org, la revue Entendre, que je trouve magnifique. Ça fait partie des ressources, des services que vous offrez. Il y a des camps aussi, le camp d'été d'Aria Italie, avec Auguste. C'est quoi ce camp-là? Les enfants qui vivent avec une surdité, ils sont accueillis?
Ce qu'on essaie de faire, c'est ça, pour les enfants, pour les activités. Il y a l'AQUEPA au niveau provincial, comme je dis, nous, on est là vraiment pour, dans les grands dossiers majeurs, mais dans chaque région du Québec, là où il y a une AQUEPA, là, les enfants peuvent, c'est ça, participer finalement au camp d'été, avoir de l'aide pour les devoirs. Les parents peuvent recevoir un peu d'aide au niveau, par exemple, parrainage, etc. Il y a toutes sortes de fêtes et d'activités qui sont organisées. Puis l'AQUEPA provinciale aussi organise un événement majeur par année qui est la fin de semaine familiale. Et ça, c'est un moment qui est très fédérateur, tout de suite, je vous le dis, pour les parents.
Ah oui.
Exactement, parce que lorsque l'enfant a une surdité, bien, il ne va pas rencontrer plein d'enfants autour de lui, à l'école, à la garderie, dans la famille, tout ça, qui a une surdité. Alors, il peut avoir un sentiment d'être un peu seul, hein, un peu isolé. Et lorsqu'il va au camp soit le camp de jour de l'AQUEPA, par exemple, à Montréal, ou lors de la fin de semaine familiale, bien, oups, tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul.
Voilà.
Alors, ça, c'est rassurant. Puis, il voit plein d'autres enfants qui ont des appareils aussi. Ils peuvent échanger entre eux, tu sais. Puis, c'est la même chose pour les parents, d'ailleurs, là, qui en profitent lors de ces activités-là pour échanger.
Mais Sophie, vous m'avez dit, on tente d'y aller à toutes ces activités-là parce que c'est le monde d'Auguste. C'est une façon aussi pour vous de montrer à votre fils, il y a d'autres enfants, d'autres familles comme la nôtre, d'autres enfants comme toi.
Ouais. Ben oui, nous, en fait, Auguste va à l'école primaire Gadebois.
Il a fait la prématernelle, puis là, il est en maternelle. Donc, il est avec des enfants comme lui à la journée longue. Mm-hmm. Mais nous, on n'est pas en contact avec ces ouais. gens-là au quotidien. Puis c'est important pour nous aussi de nous intégrer dans cette communauté-là. Alors, c'est à travers des événements organisés souvent par la KEPA, comme la fête de Noël, la fête de l'Halloween. On va aussi dans des... Il y a des lectures de contes à la bibliothèque dans Villeray. Mm-hmm. On essaie d'y aller le plus possible aux activités, évidemment, adaptées à l'âge de nos enfants. Mais nous, pour nous, c'est notre façon de faire partie de la communauté puis de montrer qu'ils sont bienvenus chez nous
ouais.
comme on veut être bienvenus chez eux.
Oui, voilà. Et ça, c'est intéressant de souligner ça, Sophie, parce que, et je reviens à ce monde qui nous semble, pour nous, les entendants, inaccessible. Comment, Edith, on fait pour tenter de percer ce monde-là, entrer en contact avec une personne sourde, tenter de l'intégrer, de s'intégrer? Est-ce qu'il y a des façons de faire?
Oui, il y a certaines façons. Je dirais, d'abord, ça dépend du type de surdité, d'appareillage, etc. Bon, par exemple, comme dans le cas d'Auguste, qui lui est sourd profond, mais pour le parent, c'est d'en prendre le LSQ le plus rapidement possible.
ouais.
Et c'est le parent qui l'enseigne à l'enfant. Je suis certaine hein, que c'est ce qui s'est passé.
Oui, ouais, au début, oui.
Oui, au début, voilà. Après ça, bien sûr, ça se poursuit parce que le LSQ, c'est une langue. Hein, alors, voilà. Et puis, ensuite, pour les parents, ben mon Dieu, comment je dirais ça?
Mais pour les parents, ben... mais aussi pour le grand public,
ouais.
c'est-à-dire d'avoir le contact le plus approprié possible.
Oui, mais disons que au fond, je vais continuer sur la même lancée, lorsque l'enfant a, mettons, un implant cochléaire, là, ou lorsqu'il a un appareil, donc il entend, OK? Alors, ce qui est important pour les gens qui s'adressent à un enfant sourd, c'est de le regarder dans les yeux. Parce que l'enfant va souvent lire il y a la lecture labiale aussi, que ce soit dans la famille, dans la rue, à l'école, etc. C'est important de regarder directement l'enfant. Parce que malgré que l'enfant peut avoir un implant ou un appareillage, ça ne veut pas dire qu'il entend parfaitement.
Ouais.
Ils n'entendent pas comme nous. Là. Mm-hmm. Ça peut être saccadé ouais. aussi. Hein? Il peut avoir un mot sur deux mots sur trois.
De se rappeler qu'il n'entend pas comme nous, nécessairement.
C'est, pas, ouais. c'est un miracle en soi, mais ce n'est pas non plus, comment dirais-je, une panacée à tout. Là. L'enfant demeure quand même avec une certaine surdité.
Mm-hmm. En terminant, Edith Keys, les grands enjeux qui vous intéressent en ce moment en tant que directrice générale de la KEPA?
Le grand enjeu, mais là, qui est en train de se mettre en place, c'est le dépistage de la surdité dès la naissance dans tous les hôpitaux du Québec. Alors, on travaille beaucoup avec ça parce qu'un enfant ouais. qui est dépisté très, très tôt a toutes les chances de développer beaucoup plus rapidement son langage, etc. Ça va être beaucoup plus facile pour lui. Un autre aussi, c'est à l'école, l'accès, par exemple, pour avoir des interprètes, que les professeurs comprennent c'est quoi la réalité d'un enfant. Essayer de l'intégrer partout. L'intégration d'un enfant, c'est ça, c'est important, là, c'est sa vie. Là,
et on pourra en parler avec Alain Martel oui. De façon plus approfondie, c'est
exactement.
Certain. Edith Keys, vous êtes la directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. C'est toujours un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
Bien, merci.
Merci.
Merci.